Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Troisième épisode.
Sur la route, Jean Valjean a détroussé un petit ramoneur, mais se souvenant des paroles de Monseigneur Myriel, il regrette son geste et sombre dans le désespoir. En 1817, à Paris, quatre jeunes gens organisent une farce. Ensemble, ils abandonnent leur maîtresse. Fantine, laissée par Tholomyès, quitte Paris avec sa petite fille Cosette, née de ce premier amour. Elle espère trouver du travail à Montreuil-sur-Mer, sa ville natale. En chemin, elle rencontre des aubergistes, les Thénardier, qui acceptent de prendre Cosette en pension.
La souris prise était bien chétive, mais le chat se réjouit même d'une souris maigre. Qu'était-ce que les Thénardier ? Disons un mot dès à présent, nous compléterons le croquis plus tard. Ces êtres appartenaient à cette classe bâtarde composée de gens grossiers parvenus et de gens intelligents déchus, qui est entre la classe dite moyenne et la classe dite inférieure, et qui combine quelques-uns des défauts de la seconde avec presque tous les vices de la première, sans avoir le généreux élan de l'ouvrier, ni l'ordre honnête du bourgeois. Il y avait dans la femme le fond d'une brute, et dans l'homme l'étoffe d'un gueux. L'ombre qu'ils ont dans leur regard les dénonce. Rien qu'en les entendant dire un mot, on entrevoit de sombres secrets dans leur passé et de sombres mystères dans leur avenir. Ce Thénardier, s'il fallait l'en croire, avait été soldat. Sergent, disait-il. Il avait probablement fait la campagne de 1815 et s'était même comporté assez bravement à ce qu'il paraît. Nous verrons plus tard ce qu'il en était. Sa femme avait quelque 12 ou 15 ans de moins que lui. Quand les cheveux romanesquement pleureurs commencèrent à grisonner, la Thénardier ne fut plus qu'une grosse méchante femme ayant savouré des romans bêtes. Il en résulta que sa fille aînée se nomma Éponine et quant à la cadette, Azelma. Il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer. La gargote allait mal. Fantine, qui s'était fixée à Montreuil-sur-Mer, écrivait, ou pour mieux dire, faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant. Les Thénardier répondaient invariablement « Cosette est à merveille ». La Thénardier était méchante pour Cosette, Éponine et Azelma aussi. Une année s'écoula, puis une autre. Cependant, le Thénardier, ayant appris que l'enfant était probablement bâtard, exigea 15 francs par mois.
« Qu'elle ne m'embête pas. Je lui bombarde son mioche tout au beau milieu de ses cachotteries. Il me faut de l'augmentation. »
Fantine paya. Tant que Cosette fut toute petite, elle fut le souffre-douleur. Dès qu'elle se mit à se développer un peu, elle devint la servante de la maison. On lui fit faire les commissions, balayer les chambres, la cour, laver la vaisselle, porter même des fardeaux. Les Thénardier se crurent d'autant autorisés à agir ainsi que Fantine commença à mal payer. C'était une chose navrante de voir l'hiver ce pauvre enfant qui n'avait pas encore 6 ans, grelottant sous de vieilles loques trouées, balayer la rue avant le jour avec un énorme balai dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. Dans le pays, on l'appelait l'alouette. Le peuple, qui aime les figures, s'était plu à nommer de ce nom ce petit être pas plus gros qu'un oiseau tremblant et effarouché. Seulement, la pauvre alouette ne chantait jamais. Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect. Tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère, sa ville natale avait prospéré. De temps immémorial, Montreuil-sur-Mer avait pour industrie l'imitation des jets anglais et des verroteries noires d'Allemagne. Cette industrie avait toujours végété à cause de la cherté des matières premières. Vers la fin de 1815, un inconnu était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme laque à la résine. Ce tout petit changement avait été une révolution. Il avait permis premièrement d'élever le prix de la main-d'œuvre, bien fait pour le pays, deuxièmement d'améliorer la fabrication, troisièmement de vendre à meilleur marché tout en triplant le bénéfice. En moins de 3 ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche. De son origine, on ne savait rien. Il paraît que le jour même où il faisait son entrée dans la petite ville, à la tombée d'un soir de décembre, le sac au dos et le bâton à la main, un gros incendie venait d'éclater à la maison commune. Cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé au péril de sa vie deux enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie, ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son passeport. Depuis lors, on avait su son nom. Il s'appelait le Père Madeleine. C'était un homme d'environ 50 ans qui avait l'air préoccupé et qui était bon. Il employait tout le monde. Il n'exigeait qu'une chose, soyez honnête homme, soyez honnête fille. Il faisait sa fortune, mais, chose assez singulière, il ne paraissait point que ce fût là son principal souci. Il semblait qu'il songeât beaucoup aux autres et peu à lui. En 1820, on lui connaissait une somme de 630 000 francs placée à son nom chez Laffitte. Mais avant de se réserver ces 630 000 francs, il avait dépensé plus d'un million pour la ville et pour les pauvres. L'hôpital était mal doté, il y avait fondé 10 lits. La ville basse qu'il habitait n'avait qu'une école qui tombait en ruine, il en avait construit deux. Il allouait de ses deniers aux deux instituteurs une indemnité double de leur maigre traitement officiel, et un jour, à quelqu'un qui s'en étonnait, il dit
« Les deux premiers fonctionnaires de l'État, c'est la nourrice et le maître d'école. »
Cependant, en 1819, le bruit se répandit que, sur présentation de Monsieur le Préfet et en considération des services rendus au pays, le Père Madeleine allait être nommé par le roi maire de Montreuil-sur-Mer. Ceux qui avaient déclaré ce nouveau venu un ambitieux saisirent avec transport cette occasion. Là, qu'est-ce que nous avions dit ? Toute la ville fut en rumeur. Le bruit était fondé. Quelques jours après, la nomination parut dans le Moniteur. Le lendemain, le Père Madeleine refusa. Dans cette même année, les produits du nouveau procédé figurèrent à l'exposition de l'industrie. Sur le rapport du jury, le roi nomma l'inventeur chevalier de la Légion d'honneur. Le Père Madeleine refusa la croix. En 1820, le vœu de la contrée fut tellement unanime que le roi le nomma de nouveau maire de la ville. L'insistance fut si vive qu'il finit par accepter. On croyait deviner qu'il avait dû vivre jadis de la vie des champs, car il avait toutes sortes de secrets utiles qu'il enseignait aux paysans. Un jour, il voyait des gens du pays très occupés à arracher des orties.
Cela serait pourtant bon si l'on savait s'en servir. Quand l'ortie est jeune, la feuille est un légume excellent. Quand elle vieillit, elle a des fibres comme le chanvre et le lin. La toile d'ortie vaut la toile de chanvre. Hachée, l'ortie est bonne pour la volaille. Broyée, elle est bonne pour les bêtes à cornes. Et que faut-il à l'ortie ? Peu de terre, nul soin. Mes amis, retenez ceci. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. Il n'y a que de mauvais cultivateurs.
Au commencement de 1820, les journaux annoncèrent la mort de M. Myriel, évêque de Digne, surnommé Monseigneur Bienvenu, à l'âge de 82 ans. M. Madeleine parut le lendemain tout en noir, avec un crêpe sur son chapeau. « Il drape pour l'évêque de Digne, » dirent les salons. Cela rehaussa fort M. Madeleine. Un soir, une doyenne de ce petit grand monde-là se hasarda à lui demander
« Monsieur le maire est sans doute cousin du feu évêque de Digne ?»
« Non, madame. »«
Mais vous en portez le deuil. »«
C'est que dans ma jeunesse, j'ai été laquais dans sa famille. »
Une remarque que l'on faisait encore, c'est que chaque fois qu'il passait dans la ville un jeune Savoyard courant le pays et cherchant des cheminées à ramoner, monsieur le maire le faisait appeler, lui demandait son nom et lui donnait de l'argent. Les petits Savoyards se le disaient, et il en passait beaucoup. Peu à peu, et avec le temps, toutes les oppositions étaient tombées. Le respect devint complet, cordial. Et il arriva un moment, en 1821, où ce mot « Monsieur le maire » fut prononcé à Montreuil-sur-Mer, presque du même accent que ce mot « Monseigneur l'évêque » était prononcé à Digne en 1815. On venait de 10 lieues à la ronde le consulter. Il terminait les différends, il empêchait les procès, il réconciliait les ennemis. Un seul homme dans la ville se déroba à cette contagion. Et quoi que fît le Père Madeleine, il demeura rebelle, comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable l'éveillait et l'inquiétait. Souvent, quand M. Madeleine passait dans une rue, calme, affectueux, entouré des bénédictions de tous, l'homme, de haute taille, vêtu d'une redingote gris de fer, armé d'une grosse canne et coiffé d'un chapeau rabattu, se retournait brusquement derrière lui et le suivait des yeux.
Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Pour sûr, je l'ai vu quelque part. En tout cas, je ne suis toujours pas sa dupe.
Il se nommait Javert et il était de la police. Il remplissait les fonctions pénibles, mais utiles, d'inspecteur. Quand il était arrivé, la fortune du grand manufacturier était déjà faite et le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine. Certains officiers de police ont une physionomie à part et qui se compliquent d'un air de bassesse mêlé à un air d'autorité. Javert avait cette physionomie, moins la bassesse. Il était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères. En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y entrer jamais. Il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux classes d'hommes, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Il n'avait le choix qu'entre ces deux classes. En même temps, il se sentait je ne sais quel fond de rigidité, de régularité et probité, compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohème dont il était. Il entra dans la police. Il était stoïque, austère, rêveur triste, humble et hautain comme les fanatiques. Son regard était une vrille, cela était froid et cela perçait. Toute sa vie tenait dans ces deux mots, veiller et surveiller. Il n'avait aucun vice. Quand il était content de lui, il s'accordait une prise de tabac. Il tenait à l'humanité par là. Tel était cet homme formidable. Javert était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine, un œil plein de soupçons et de conjectures. M. Madeleine avait fini par s'en apercevoir, mais il sembla que cela fût insignifiant pour lui. Il traitait Javert comme tout le monde, avec aisance et bonté. Javert était quelque peu déconcerté par sa tranquillité. Pourtant, son étrange manière d'être parut faire impression sur M. Madeleine. Voici en quelle occasion. Un jour qu'il passait un matin dans une ruelle non pavée, il entendit du bruit. Il y alla. Un vieux homme, nommé le père Fauchelevent, venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu.
Qui est-ce qui est bon enfant pour sauver les vieux?
A-t-on un cric?
On est allé en quérir un.
Dans combien de temps l'aura-t-on?
Il faudra un bon quart d'heure.
Mais ça plus temps! Vous ne voyez donc pas que la charrette s'enfonce?
Dame!
Écoutez, il y a encore assez de place sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos. 5 louis d'or à gagner. 10 louis!
Ça va être diablement fort, et puis on risque de se faire écraser.
Allons! 20 louis!
Ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque.
Monsieur Madeleine se retourna et reconnut Javert.
C'est la force. Il faudrait être un terrible homme pour faire la chose de lever une voiture comme cela sur son dos. Monsieur Madeleine, je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là.
Madeleine tressaillit.
C'était un forçat.
J'ai tout.
Du bagne de Toulon.
Ça brise les côtes.
Madeleine leva la tête, rencontra l'œil de faucon de Javert. Il regarda les paysans immobiles et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tomba à genoux et avant même que la foule eût eu le temps de jeter un cri, il était sous la voiture.
Père Madeleine, retirez-vous de là!
Monsieur Madeleine, allez-vous-en! Laissez-moi! Vous allez vous faire écraser aussi!
Ils se précipitèrent. Le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage pour tous. La charrette fut enlevée par 20 bras. Le vieux Fauchelevent était sauvé. Madeleine se releva. Il était blême. Il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste, et il fixait son œil tranquille sur Javert, qui le regardait toujours. Fauchelevent guérit, mais son genou resta ankylosé. Monsieur Madeleine, par les recommandations des sœurs et de son curé, fit placer le bonhomme comme jardinier dans un couvent de femmes du quartier Saint-Antoine à Paris. Lorsque Fantine revint dans son pays, personne ne se souvenait d'elle. Heureusement, la porte de la fabrique de M. Madeleine était comme un visage ami. Elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes. Vivre honnêtement de son travail, quelle grâce du ciel! Elle acheta un miroir, se réjouit d'y regarder sa jeunesse, oublia beaucoup de choses, ne songea qu'à sa Cosette et à l'avenir possible, et fut presque heureuse. Elle loua une petite chambre et la meubla à crédit. En ses commencements, on l'a vu, elle payait exactement les Thénardier. Comme elle ne savait que signer, elle était obligée de leur écrire par un écrivain public. Elle écrivait souvent. Cela fut remarqué dans l'atelier. On commença à dire tout bas que Fantine écrivait des lettres et qu'elle avait des allures. On l'observa. Avec cela, plus d'une était jalouse de ses cheveux blonds et de ses dents blanches. On parvint à se procurer l'adresse. Monsieur Thénardier, aubergiste à Montfermeil. Bref, on sut que Fantine avait un enfant. Ce devait être une espèce de fille. Il se trouva une commère qui fit le voyage et dit à son retour
« J'en ai eu le cœur net. J'ai vu l'enfant. »
Tout cela prit du temps. Fantine était depuis plus d'un an à la fabrique lorsqu'un matin, la surveillante de l'atelier lui remit de la part de Monsieur le maire 50 francs en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de l'atelier et en l'engageant à quitter le pays. C'est précisément dans ce même mois que les Thénardier venaient d'exiger 15 francs au lieu de 12. Fantine fut atterrée. Elle ne pouvait s'en aller, elle devait son loyer et ses meubles. On lui conseilla de voir Monsieur le maire, elle n'osa pas. Du reste, Monsieur Madeleine n'avait rien su de tout cela. Fantine s'offrit comme servante. Personne ne voulut d'elle. Elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison. Derrière vivre de peu, il y a vivre de rien. Fantine apprit comment on se passe tout à fait de feu en hiver, comment on fait de son jupon sa couverture. Dans cette détresse, avoir sa petite fille eût été un étrange bonheur. Elle songea à la faire venir. Mais quoi ? Lui faire partager son dénuement ? Et puis, elle devait aux Thénardier. Comment s'acquitter ? Et le voyage, comment le payer ? L'excès du travail fatiguait Fantine et la petite toux sèche qu'elle avait augmenta. Cependant, quand elle peignait ses beaux cheveux qui ruisselaient comme de la soie floche, elle avait une minute de coquetterie heureuse. L'hiver revint, jours courts, moins de travail. Elle gagnait trop peu. Ses dettes avaient grossi. Elle entra chez un barbier.
Les beaux cheveux.
Combien m'en donneriez-vous ?
10 francs.
Coupez-les.
Un travail ténébreux se faisait dans son cœur. Elle prit un amant, le premier venu, une espèce de musicien mendiant qui la battait et qui la quitta comme elle l'avait pris, avec dégoût. Un jour, elle reçut des Thénardier une lettre.
« Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays, une fièvre militaire qu'ils appellent. Si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. »
Comme Fantine passait sur la place, elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture. C'était un batteleur dentiste en tournée.
« Vous avez de jolies dents, la fille. » Si vous voulez me vendre vos deux palettes, je vous donne de chaque un Napoléon d'or.
Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?
C'est les dents de devant, les deux d'en haut.
Quelle horreur !
Réfléchissez, la belle. Si le cœur vous en dit, venez ce soir à l'auberge. Vous m'y trouverez.
Le soir, on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de Paris, où sont les auberges. Le lendemain matin, comme sa voisine entrait dans sa chambre, Fantine lui montra deux Napoléons qui brillaient sur la table. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Elle avait un trou noir dans la bouche. Elle envoya les 40 francs à Montfermeil. Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Elle n'avait plus de lit, il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture, un matelas à terre et une chaise dépaillée. Elle avait perdu la honte, elle perdit la coquetterie. Dernier signe. Elle sortait avec des bonnets sales. Thénardier lui écrivit qu'il lui fallait 100 francs tout de suite.
100 francs? Mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour? Allons, vendons le reste.
L'infortunée se fit fille publique. Au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés, il ne reste plus rien à Fantine de ce qu'elle a été autrefois. Elle passe, elle vous subit et elle vous ignore. Elle est la figure déshonorée et sévère. Elle est résignée de cette résignation qui ressemble à l'indifférence, comme la mort ressemble au sommeil. Il y avait à Montreuil-sur-Mer une classe de jeunes gens qui grignotent 1500 livres de rente. Vers les premiers jours de janvier 1823, un soir qu'il avait neigé, un de ces désœuvrés élégants se divertissait à harceler une créature qui rôdait en robe de bal. Chaque fois que cette femme passait devant lui, il lui jetait avec une bouffée de la fumée de son cigare quelque apostrophe qu'il croyait spirituelle.
Que tu es laide! Veux-tu donc te cacher? Tu n'as pas de dents?
L'oisif, profitant d'un moment où elle se retournait, se baissa, prit sur le pavé une poignée de neige et la lui plongea brusquement dans le dos entre ses deux épaules nues. La fille poussa un rugissement, bondit comme une panthère, lui enfonçant ses ongles dans le visage avec les plus effroyables paroles. C'était la Fantine. Les passants s'amassèrent et il se forma un grand cercle riant, huant, applaudissant. Tout à coup, un homme de haute taille sortit de la foule.
« Suis-moi. »
Fantine tremblait de terreur. Elle avait reconnu Javert. L'élégant avait profité de l'incident pour s'esquiver.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. Troisième épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vigning, Jean Valjean, Vincent Schmitt, Javert, Julie-Marie Parmentier, Fantine, Hervé Furic, Thénardier. Et les voix de Jeanne Sellard, Catherine Artigala, Johanna Hegele, Jacques Pratoussi, Martin Amic, Jean Riffel, Michel Baladi, Michel Dehaye, Agnès Château, Claire Bauger, Sébastien Faglin, Julien Grenet, Barry Sepki, Andrés Espinoza, Alain Pretin, Gunther Van Severen et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Levy. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dereté et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe.